Eh bien, il est l'heure de notre émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nelly Kars et Bruno Lambert, les marcheurs de la Terre, et également créateurs d'Octopus Productions. Voilà, bonjour, ça va?
Bonjour Odile.
Bonjour Odile.
Oui, ça va, ouais, ouais, tout est nickel, quoi.
Alors, vous allez nous tenir un peu informés de votre dernier projet. On va peut-être rappeler d'abord qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, Nelly Kars, productrice d'Octopus, c'est ça? Et puis, tant de choses, aventurière. Quelles sont toutes
alors, disons que,
vos facettes?
Octopus Productions, c'est vraiment une société de production qu'on a créée pour la mettre au service du programme Les Marcheurs de la Terre, que Bruno a créé en 95. Donc pour nous, c'est vraiment un outil à la base pour faire de l'éducation à l'environnement au sens le plus large possible. Et oui, après, c'est une aventure en soi. Mais on a aussi le côté, on va dire, sportif, souvent franchement engagé, qui est associé à nos projets.
Voilà, avec un gros focus sur la défense de l'environnement.
Alors hein, ces dernières années, c'est plus qu'un focus. Ouais. On travaille dessus la thématique de l'eau, on va dire, depuis 2017.
Ouais.
Donc oui, c'est plus qu'un focus. Là, c'est des années et des années de travail avec beaucoup de monde qui a pu être touché, différents types de publics aussi. Ça va des scolaires jusqu'aux adultes. On travaille en ciné-débat, nos films sont diffusés en télé. Et on essaie d'avoir quelque chose de large, finalement, au niveau des diffusions. Et le cœur de notre travail, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le considère, c'est quand on rencontre vraiment les gens. Parce que des diffusions télé, c'est bien. Mais bon, on sait ce que c'est une télécommande, il y a beaucoup de zapping. Et quand on rencontre les gens, c'est mieux. Tout simplement, on peut échanger, il y a des vraies interactions. Et on en apprend souvent autant que le public, quoi.
Et Bruno Lambert, bien sûr, aventurier aussi, explorateur, oui, réalisateur.
Alors le petit rappel, on va dire que les Marcheurs de la Terre ont été créés en 1995. Donc il s'agit d'un programme d'éducation à l'environnement qui associe l'aventure vécue, parfois une aventure extrême, dans un milieu extrême, à un projet éducatif qui peut être suivi en temps réel ou en différé, à des films, à des livres, des conférences, des expositions, etc. etc. Voilà. Donc le premier projet des Marcheurs de la Terre, c'était un projet polaire, lorsque j'ai atteint le pôle en 1995, en autonomie complète. Et le dernier né des Marcheurs, on va dire qu'effectivement ça se fait avec Nelly et Octopus, donc c'est le projet Posidonia, pour lequel on est là. Donc Posidonia, il s'agit d'un challenge, d'une aventure sportive, on va dire, qui consiste à relier Marseille à Menton en 42-45 étapes, enfin c'est assez variable, soit à peu près 450 km en théorie de nage. Je dis bien en théorie parce que ça varie aussi selon la météo, on verra au final. Nelly nage, pour le coup, c'est elle qui est vraiment en tête de l'aventure, et moi je m'occupe de la partie logistique et accompagnement en kayak pour sa sécurité, mais également pour faire des images. Voilà. Et comme l'a dit Nelly, l'objectif, c'est de faire cette fois-ci un focus sur l'environnement littoral. Alors le littoral, c'est une partie de terre, une partie de mer, une partie aérienne, une partie sous-marine, une partie sur l'eau, voilà, sur toute la région PACA. D'utiliser donc quelque part cette région, je dirais, pour parler de la Méditerranée dans son ensemble, voire même des océans dans leurs ensembles, puisque les problématiques sont sensiblement les mêmes. Voilà.
Comment ça se passe concrètement pour ces journées de nage, puisqu'évidemment vous ne faites pas les 450 km sans interruption? Comment ça se passe, c'est une journée?
Alors en fait, il y a plusieurs missions d'abord. On pourrait dire empiriquement, une semaine sur deux, il y a une mission de plusieurs jours sur la côte, sur des secteurs qui ont été définis. Alors pour leur intérêt, les intérêts sont variables. Ça pourrait être pour montrer, on va dire, les belles choses, ce qui est protégé, ce qui est intact, la résilience, et aussi montrer ce qui est impacté. Et ensuite, certains secteurs ont été aussi choisis, tout simplement parce qu'il y a un accès possible pour nous, parce qu'on travaille avec des vannes, des fourgons, donc ils passent pas sous les portiques, c'est assez vite compliqué, les mises à l'eau pour le kayak peuvent être assez complexes, puisque c'est Bruno qui fait l'assistance en kayak. Et donc
oui,
le tournage nautique.
C'est sportif aussi alors.
Ah oui, c'est sportif. Et donc finalement, on va avoir quelques jours sur la côte où on va jongler avec la météo une semaine sur deux pour réussir à faire la mission qui a été prévue. Le nombre d'heures et de kilomètres de nage est très variable aussi, ça dépendra toujours de la météo. On pourrait dire qu'il pourrait y avoir entre 2 et 5, 6 heures de nage, si tout pouvait bien se passer, mais je dis pouvait parce que ce printemps n'est pas du tout évident. Et la journée, quand on sort de l'eau, elle n'est absolument pas finie. C'est-à-dire qu'après, on a tout ce qui est maintenance du matériel, continuer le tournage, parce qu'on continue à faire des images, sachant que toute cette aventure est faite pour faire un documentaire. Donc on a un 52 minutes qui est préacheté par France Télévisions, qui sortira en 2025. Ensuite, on pourra exploiter un ciné-débat les années suivantes. Et ce 52 minutes, c'est d'un côté, on va dire, cette nage qui est un fil rouge, qui est une accroche, il faut dire la vérité, c'est une accroche médiatique, même si elle est franchement engagée, c'est une vraie accroche, de manière à attirer l'attention du public. Et une fois que l'attention est vraiment accrochée, on se met en retrait et là on donne la parole à d'autres personnes qui sont des acteurs du littoral. Ces acteurs du littoral, ça va être donc des plongeurs, des scientifiques en priorité, des associations, comme on parlera un peu mieux tout à l'heure. Et finalement, la journée, quand on a fini de la journée de nage, elle n'est absolument pas terminée. On a encore tout ça. Il peut y avoir des interviews, il va y avoir d'autres choses à faire. Et après, on remonte chez nous. Et après, il y a énormément de travail de bureau.
Et oui, il ne suffit pas que de nager. Vous aviez dit une autre fois que c'était presque votre repos de...
Il faut être honnête, hein, c'est la partie la plus physique, ouais. Mais c'est là où j'ai le moins de responsabilité.
Ouais.
un projet comme ça, c'est quand même une longue aventure, parce que si l'aventure sportive s'étale sur une année, il faut savoir que le projet a été écrit en 2018. Donc alors, quand je parle du projet, c'est le dossier documentaire pour le film, c'est le dossier éducatif, c'est les recherches de financement, donc les différents vecteurs médias qu'on va utiliser. C'est assez complexe, quoi. Hein. C'est vraiment, il faut quand même avoir beaucoup de persévérance. Je dirais pas d'entêtement, parce que l'entêtement, ça casse, ça sert à rien. Par contre, il faut jamais, jamais lâcher le fil, quoi. Ça, c'est capital. Donc, c'est l'aventure avant l'aventure. Ça, c'est clair. Et après l'aventure, il y en a une autre, celle de l'exploitation, effectivement, donc de ces sujets-là. Pour en revenir à la météo, puisque bon, l'une des thématiques, on va dire, abordées dans le documentaire et dans le suivi éducatif, c'est bien sûr le réchauffement climatique. Et il faut savoir que ce réchauffement climatique a des conséquences sur la météo. Alors, pour rappel, le climat mesure, je dirais, les variations atmosphériques sur une échelle de temps et sur un périmètre différent de la météo. C'est-à-dire que le climat, ça se mesure sur des centaines d'années, des milliers d'années, et ça peut se mesurer à l'échelle de la planète comme à l'échelle d'une région. La météo, c'est très localisé sur quelques jours. Voilà. Donc automatiquement, le réchauffement a des conséquences sur la météo locale. Et la météo locale, en ce moment, c'est un casse-tête. On travaille beaucoup avec des skippers, des plongeurs, des scientifiques qui partent en mer donc pour des missions d'observation, de comptage, de prélèvement. Et en fait, pour donner un aperçu, je dirais, de la complexité de la logistique, on ne peut s'engager que la veille pour le lendemain au niveau des conditions de mer.
Et encore.
Nous, à la limite, quand on n'a qu'une journée de nage stricto sensu et de kayak, alors il arrive qu'on joue avec les reliefs des côtes et on joue avec les horaires. Bon, si effectivement le vent se lève à partir de 9h, tourne à partir de 11h, etc., on va adapter notre étape, je dirais, au relief pour pouvoir bénéficier de son abri. En revanche, quand on part en haute mer, enfin, ou du moins quand on part un petit peu plus loin, là, c'est quand même une belle galère, quoi, parce que on a souvent été confronté à des creux quand même assez conséquents, avec des petits zodiacs, etc., etc. Alors ça, c'est ce qui se fait en marge du projet. C'est des interviews, tout ça, et tous les marins s'en plaignent. Voilà. Et j'ai bien aimé la formule d'un skipper avec qui on est parti il n'y a pas très longtemps, qui disait que la météo à 6 heures, ce sont des prévisions, au-delà, c'est de la prédiction. Point à la ligne. Donc il ne faut absolument pas s'imaginer que si on a dit, je ne sais pas où, qu'il va faire beau le week-end prochain, qu'il y aura que la neige dans 15 jours, que c'est fiable. C'est faux, faux, faux. Tous les professionnels de terrain le savent, que ce soit en montagne ou que ce soit en mer, quoi. Donc ça, c'est un gros souci. Alors, c'était déjà anticipé, évidemment, sauf qu'il s'avère que cette année, eh ben, ça s'est densifié. Voilà. Donc ça, c'est le problème majeur. Le deuxième, je reviens effectivement sur ce que dit Nelly. Donc nous, on a opté pour une semaine sur deux pour différentes raisons, y compris familiales, parce que chacun de notre côté, bon, on a encore des enfants, je dirais, qui sont scolarisés. Donc c'est pas du tout pour des raisons sportives, il faut le dire, clairement, quoi. Voilà. Et puis après, ben, tout simplement parce qu'il faut synthétiser les images, rédiger les bulletins, etc., prendre des notes en vue du film. Mais la problématique majeure qui se pose maintenant que la saison d'été commence à arriver, c'est qu'effectivement, tous les portiques sont fermés et on peut pas se garer. Donc il n'y a pas d'accès à l'eau, donc on est obligé d'avoir des plans complètement tarabiscotés, avec des portages, des gros portages, des portages à déniveler sur des pentes très 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 raides, avec sensiblement 100 kg de matériel à chaque fois.
Alors le portage, il faut préciser, hein, c'est le kayak.
Kayak, matériel de tournage, matériel de nage, etc., matériel de sécurité et tout et tout.
Matériel de descente en apnée, rien que la ceinture de plomb, elle pèse son poids, etc., etc., les vivres pour la journée.
Comme son nom l'indique, la ceinture de plomb, voilà. Ouais.
Donc c'est vrai que si j'insiste un peu là-dessus, ouais. C'est qu'il n'y a pas que la nage, voilà. Mmh. On va dire que pour Nelly, la nage, c'est la partie la plus sympa, et pour moi, le kayak aussi, on va dire, hein, c'est tout. Mais c'est vrai que l'environnement du challenge en lui-même est considérable. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme on l'a dit lors de notre dernier passage ici, l'aventure est revendiquée comme une belle aventure sportive et humaine, mais absolument pas comme un exploit. Ça, on ne veut pas trop le mettre en avant, ça n'a pas de sens. Mmh. Voilà. C'est aussi prétexte à rencontrer beaucoup de gens. On l'avait dit également lors de notre dernier passage, mais en fait, ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que on dit que les gens d'en bas sont un petit peu surexcités, etc., etc. Ben, c'est vrai, à la limite, dans les très grandes villes au cœur de l'été. Mais en fait, on rencontre plein de gens qui veulent la paix, qui sont vraiment tranquilles, qui aiment leur littoral, qui nous pose plein de questions sur est-ce que c'est vrai que la Méditerranée est foutue ? Donc nous, on essaye de relativiser. Foutue, c'est un grand mot. Bon, elle n'est pas en bon état, c'est évident, quoi. Est-ce que c'est vrai que les Médises vont arriver quand il fait chaud, etc. Donc tout du long, on fait des micro-interventions, ce qui fait qu'une semaine sur deux, on peut considérer qu'on a entre... Au maximum, on peut nager 6 jours de la semaine, et au minimum, c'est arrivé de faire que 2 jours. Mais à chaque fois, on fait au moins une ou deux interventions. Donc en termes de communication, c'est considérable. C'est-à-dire que par semaine, on a 6-7 interventions, donc avec un public local qui peut nous voir arriver ou partir.
Complètement ça, spontané, c'est au moment de se mettre à l'eau.
Ça, je trouve que c'est bien parce que ces gens-là veulent de l'espoir, posent des questions, et c'est ce qu'on essaye vraiment, vraiment d'envoyer. Quoi, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi des sites d'intérêt en fonction effectivement de leur esthétique, mais également en fonction de leur état de santé, de l'état de santé des écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'un site remarquable pour nous ? C'est un site qui est magnifique, relativement préservé, mais un site qui est aussi relativement massacré. Voilà. Donc, ce sont les deux. C'est pour ça qu'on a choisi ces étapes. Après, ce qui peut leurrer, je dirais, le public qui peut aller sur le littoral l'été ou hors saison, c'est qu'effectivement, il y a des espaces côtiers qui sont relativement libres, pas beaucoup de monde, très préservés, très jolis, dehors. Mais quand on est dessous, c'est mort.
Ouais, ça, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, on a deux visions différentes.
Ça, c'est vraiment très, très bluffant. Voilà. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont hyper urbanisées où moi personnellement j'y mettrais jamais les pieds en touriste, ça c'est évident, c'est des galères, et on met la tête dans l'eau, c'est génial.
Voilà. Ah oui.
Et tout ça, c'est lié aux aires marines protégées. Il y a plein d'espaces protégés, ce sont pour l'instant des petits confettis. Alors ça peut être des réserves Natura 2000, des parcs nationaux, des petits morceaux de parcs régionaux comme en Camargue, la Camargue on n'a pas nagé, hein. Et d'autres sites labellisés, et pour le coup c'est assez magnifique parce que dessous, alors c'est ce que me rapporte Nelly, hein, parce que moi je le vois le dessous, je le vois d'en haut, hein. Donc on a l'impression que la vie sauvage, faune et flore savent lire les panneaux, voilà, parce que dès qu'on sort de la zone donc protégée, de toute façon c'est grillé, voilà. Le peu de poissons, de poulpes qu'on a vus, sont très très sauvages, ils sont chassés, ils sont pêchés. Nelly me faisait part, là, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, de champs de flèches de chasse sous-marine. Donc les gars, ils perdent leurs flèches. C'est planté dans la matte de Posidonie et en fait, il y a des flèches partout plantées. Mmh. Voilà, etc. Quand on faisait la Dame des Lacs, elle s'accrochait dans les hameçons. Voilà. Et puis on a vu des scènes très émouvantes qui ont été filmées. Donc Nelly a filmé un poisson, c'est un labre, c'est très connu des pêcheurs, qui était en train de faire son nid, parce qu'il faut savoir que les poissons font leur nid comme les oiseaux. C'est exactement la même chose en haut et en bas. L'image est magnifique, donc il fait son nid, etc., il s'affaire et tout, et le poisson avait un hameçon, donc il traversait la gueule, mais il continuait à faire ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est très très touchant. En fait, c'est une aventure qui est hyper contrastée.
Et vous avez réussi à filmer ça ?
Ah ben ça pour le coup, c'est Nelly qui maintenant touche bien sa bille en images sous-marines. C'est pour ça qu'on a divisé les nages en nages linéaires, c'est-à-dire une nage longue distance très sportive, et l'âge plus exploratoire, on va dire, où on va rester sur un périmètre défini, parce qu'il y a des choses intéressantes. Et là, Nelly fait aussi beaucoup, beaucoup d'images. Et là, c'est très, très intéressant.
Après, Nelly, Oui, après, les images sous-marines, elles se font avec une caméra type GoPro extrêmement simple. Hein. Il ne faut surtout pas prendre quelque chose de trop lourd dans ces cas-là, et de trop encombrant, parce qu'il faut que je sois capable de dégainer à toute vitesse quand il y a quelque chose d'intéressant. Donc, la caméra est lestée. Et donc je descends en apnée quand je vois quelque chose qui mérite d'être filmé. Si c'est des poissons, poulpes ou autre animal, ce que j'essaie de faire en fait, c'est d'avoir le moins d'impact possible par ma présence. C'est-à-dire que je pose la caméra et j'attends que de toute façon, ils sont tous très curieux, ils vont venir voir la caméra. Donc je m'en vais et j'attends qu'ils viennent voir la caméra. Je la laisse quelques temps au fond et ensuite il y a toute la surprise au dérochage.
Ah c'est génial. Et,
oui c'est génial, c'est génial. Parce que... Et puis à ce côté, d'un coup on surprend, franchement on surprend leur intimité. Dès qu'on n'est pas là, ils n'ont pas du tout la même attitude. Rien à voir. Un poisson sera tendu quand il verra un nageur au-dessus. Quand il ne voit plus le nageur, il va se tourner avec curiosité vers la caméra et c'est tout. On a eu des scènes vraiment, vraiment fabuleuses. Je ne sais pas si on l'avait raconté lors de notre dernier passage, mais on avait un poulpe qui s'est accroché à la caméra. Ça, c'était génial. C'est-à-dire que je pose la caméra au fond. Il était dévoré de curiosité, donc il est allé voir, évidemment. Sauf qu'après, il s'est accroché. Un poulpe, ça passe sa vie à ouvrir des boîtes, puisque les coquillages sont des boîtes. Hein. Donc, je l'ai vu commencer à essayer de tirer sur la chose. Je me suis demandé s'il n'allait pas finir par ouvrir le caisson. Donc, je me suis dit, je récupère ma caméra quand même.
Ouais,
hein.
Ouais.
Il a fait sa mauvaise tête, il a voulu rester accroché dessus. Tout est filmé, c'est trop mignon. Et c'est là qu'on voit d'abord, bon, c'est un animal très intelligent, très curieux. Et effectivement, quand on retire sa propre présence, on a moins d'impact et on peut lui laisser toute la liberté de faire ce que lui, il a envie de faire, quoi, tout simplement. Et bon, ça, c'était vraiment génial. Après, on a filmé pas mal de choses intéressantes, des rencontres avec des animaux auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, en ce moment, sur toutes les baies sableuses, quasiment à chaque sortie, on trouve des rétorpilles.
Qu'est-ce que c'est ?
Une raie torpille, c'est une raie capable de donner un choc électrique qui tue en fait ses proies comme ça ou qui les assomme et qui peut donc se défendre aussi par un choc électrique. Alors elles peuvent être dans très peu d'eau, complètement ensablées, donc on ne les voit pas. Faut vraiment avoir l'œil. Maintenant, je commence à le voir, mais ce n'est pas si évident que ça. Elles sont ensablées et puis elles peuvent être aussi dans des zones un peu plus profondes. Et sur les zones, les baies sableuses, on pourrait dire les zones de plage ou les zones où il y a de la vase, il y a quand même assez souvent des raies torpilles. Donc c'est intéressant comme rencontre. Après, dans les rencontres assez surprenantes qu'on a pu avoir aussi dernièrement, il y a un crabe qui est gigantesque, qu'on voit généralement sur les étals des poissonneries. C'est le crabe araignée, le grand crabe araignée de mer. L'autre jour, il y avait une femelle énorme, avec son ventre débordant d'œufs, dans la Posidonie, dans même pas un mètre d'eau, elle est en train de manger un oursin. Et quand je suis arrivée, elle était là avec sa toute petite pince, parce que la pince est toute petite par rapport à son corps énorme, en train de manger son oursin. Ou alors des coquillages qui vont, en fait ce sont des escargots de mer, qui vont s'assembler entre eux, tous ensemble, pour faire une espèce de ponte géante qui ressemble à un petit ballon. Et ils sont tous dessus, en train de s'occuper de leurs petits finalement, hein, à faire leur ponte. Ça aussi c'est vraiment particulier. Après on rencontre beaucoup de méduses et autres planctons. Avec cette année, l'invasion on va dire des vélèles a fait parler d'elle parce que ça sent mauvais la vélèle. Hein. C'est un organisme en fait colonial, c'est-à-dire c'est plusieurs organismes qui se sont alliés entre eux, mis d'accord pour en former un seul. Ça fait penser aux méduses. C'est la créature qui a inventé la navigation à voile. C'est fabuleux, c'est tout petit, ça fait quelques centimètres de long, de forme ovale. Et la vélèle, en fait, quand au printemps elle pullule, elle se retrouve en fait échouée sur les plages puisqu'elle navigue en surface grâce à la force du vent et à la force du courant. Et elle se retrouve échouée sur les plages. Et là, ça sent très, très mauvais. Donc évidemment, ça génère des questions. On accuse la Posidonie de sentir mauvais alors que c'est la vélèle, etc., etc. Ben, la rencontre avec des bandes de vélèles gigantesques, c'est magnifique, sachant que c'est pas vraiment urticant, c'est pas un gros problème. Par contre, des méduses urticantes, il y en a aussi. On pourrait dire qu'au niveau environnement biologique, c'est ce qui peut y avoir de plus compliqué, la méduse. Parce que même si je suis très bien équipée, hein, j'ai une combinaison triple couche pour l'eau froide, d'ailleurs j'ai pu enlever une couche maintenant qu'elle s'est réchauffée, j'ai que la bouche qui sort un petit peu au niveau de la peau, hein, on ne voit pas grand-chose, mais j'ai aucune envie de me prendre une méduse sur la bouche, connaissant déjà ce que ça fait. Et il y a des périodes en fait, où c'est tellement épais de méduses sur certains secteurs que je suis obligée de sortir la tête ou de garder la tête un petit peu penchée pour voir si je ne vais pas m'en prendre sur la figure. Ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des images aussi ? On tente de filmer un maximum de choses, hein, finalement.
Oui, mais on a eu la chance de filmer pas mal de dauphins cette fois-ci. Alors, donc ça, c'était lors des interviews, je dirais, périphériques à la nage. Parce qu'en fait, il y a certaines interviews pour le film qui sont faites aussi pendant la période de nage. Et là, on est parti avec deux organisations partenaires du projet. Bon, une qui est très connue, qui s'appelle ESS Grand Bleu, qui est basée donc sur Villefranche, je crois, dans le 06, et qui nous a invités sur son super voilier, un vieux gréement, je crois, de 23 mètres, à peu près, en bois, donc magnifique. Et là, on a eu la chance d'observer donc des dauphins bleus et blancs de Méditerranée, à loin des côtes. Hein. Déjà, on s'avançait sur la course hein, quand même. Hein. Mais ça a été très 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 sympa, de très belles images. Et puis peu de temps après, on est parti avec un autre partenaire, Rando Marine, donc, qui lui est moniteur de plongée, pardon, mais c'est une plongée un petit peu alternative. Donc ce sont des très petits effectifs, donc avec une approche très très écolo, très respectueuse du milieu. Et là, on a eu la chance de voir aussi des grands dauphins de Méditerranée, donc la taille au-dessus des Tursiopes. Donc ils nous sont passés, ils nous ont coupé le nez du Zodiac. Voilà. Donc ça, c'est... Bon, déjà, c'est beau, c'est magnifique, mais symboliquement, c'est encourageant. Alors, c'est nous qui l'interprétons comme ça, hein, parce que, bon, rares sont les gens qui n'aiment pas les dauphins. Hein, voilà. Mais c'est très intéressant. Et derrière ces dauphins, y avait des bateaux, il y avait des organismes, il y avait des gens donc avec qui on a travaillé, des gens qui nous ont reçus, qui nous ont hébergés, qui nous ont nourris. Je pense à l'association Carcaran Environnement, qui nous a pris sous sa coupe, quoi. C'était impressionnant, quoi, pendant une semaine. On a eu beaucoup d'autres partenaires, des campings aussi. donc, qui adhèrent au projet Posidonia. Et en fait, on a tout un petit chapelet de partenaires, de passionnés sur ce littoral qui est envahi l'été, de personnes justement qui s'en soucient réellement et qui font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, quoi. C'est pour ça que je disais en préambule que c'est vraiment aussi une aventure humaine. Donc il y a l'aventure sportive, il y a l'investigation donc, environnementale, l'enquête écologique, on va dire, mais il y a également donc, toute cette dimension humaine qui est très, 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 très riche. Voilà. Et ça, c'est bien parce que au mieux, les gens sont en demande d'espoir. Non, au mieux, ils sont dans une démarche de résilience. Et au pire, ils sont en demande, quoi. On a rarement vu de gens complètement affolés. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de faire passer, quoi. C'est-à-dire que, bon, comme je le disais la dernière fois aussi, on connaît l'état des lieux au niveau des écosystèmes planétaires. On sait que ce n'est pas brillant. On sait qu'il y a des chemins, il y a des voies de non-retour. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais depuis 1995, au Marcheur de la Terre, bon, on alerte. On dit j'ai vu ci, j'ai vu ça, on a fait ci, on a fait ça. Et il est temps maintenant de passer à l'action. Et l'un des mots-clés maintenant qui est derrière tous nos projets, c'est la résilience, quoi. Donc inciter les gens à aller de l'avant et surtout à ne pas capituler et ne pas céder devant toute l'incoscation qu'on reçoit, hein, qui assombrit les esprits et qui voile le discernement, quoi, hein, parce que ça, c'est capital, quoi. Nous, on insiste vraiment, vraiment là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas revendiquer l'exploit comme un exploit sportif à part entière. C'est pas le but. C'est justement essayer de se rapprocher des gens. C'est une aventure difficile, pas facile, c'est évident. Mais par contre, ça nous permet vraiment de se rapprocher des gens, quoi. Ça, c'est capital, hein. Parce que quand on revendique un exploit au sens propre, automatiquement, on est en recul par rapport au public. Le public nous voit donc comme un objet télévisuel, etc., etc. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que ça n'incite pas les gens à agir. Et Posidonia, comme le disait, c'est une expression de Nelly. Une fois, elle l'a dit à un média, c'est une espèce de grande rando palmée. Sauf qu'elle fait 450 bornes.
Donc en fait, un trek palmé.
Voilà. Au bout du compte, eh ben on peut imaginer une petite famille, une petite association, un groupe d'amis faire la même chose sur une échelle de 3 jours, sur un long week-end. Bon, ben voilà, on va aller faire des images. On a nos réseaux sociaux, on va essayer de faire quelque chose. Et puis ça peut donner un fil conducteur à leurs vacances, quoi. Chacun peut le faire. Et si à chaque fois tout le monde le fait, ben il arrivera un moment donné où on fait pencher la balance, quoi. Tout simplement. Ça, c'est valable en mer, c'est valable partout, attention, hein, c'est valable dans son quartier, de toute façon, en ville, ça se voit. Hein, mais tout le monde peut le faire, quoi, à son niveau.
D'ailleurs, ça m'a aussi marqué parce que j'ai souvent entendu dire les personnes qu'on rencontre sur le littoral que leurs jeunes, au sens large, la jeunesse, ne connaît pas trop la mer, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Bon, on peut avoir les mêmes ici en montagne, hein, on peut avoir des jeunes montagnards qui ne connaissent pas forcément leur environnement non plus. Hein. Mais ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai qu'on a vraiment, quand je vais nager, à chaque fois que je mets la tête sous l'eau, je me dis, mais j'accède à une autre planète. C'est ouais. Magnifique. Une planète que quasiment personne ne connaît. Il faut vraiment avoir envie, en fait. Les lois sont complètement différentes. Les créatures n'ont pas les mêmes fonctionnements qu'à Terre. C'est complètement passionnant. Ça vaut vraiment le coup, je pense, d'inciter les jeunes, tout le monde, en fait, mais les jeunes aussi, encore plus, à mettre la tête sous l'eau et à regarder comment ça se passe avec un peu de curiosité. Parce qu'on dit souvent, notre littoral est esquinté. Et c'est vrai qu'il y a des zones esquintées. Mais même dans les zones les plus esquintées, il y a des scènes magnifiques à voir. La scène dont parlait tout à l'heure Bruno, du crénilabre, ce petit poisson en fait, qui fait son nid, malgré son hameçon coincé à la bouche, il y en a beaucoup. Ceux-là, je les ai filmés récemment sur des zones qui sont impactées, vraiment impactées. Et sur ces zones-là, on les voit, ces poissons. C'est magnifique. On dirait des oiseaux qui vont faire leur nid. Ça mérite vraiment d'être regardé, d'être observé et d'être dit. Je pense que si toutes les personnes qui allaient à la plage prenaient le temps, on va dire, de mettre un masque, un tuba et d'aller jeter un œil à comment ça se passe là-dessous, je pense que ça aiderait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la plage.
Alors si on parle des zones impactées, on en parle assez peu, mais il y a une petite anecdote que moi je trouve assez rigolote. On a nagé récemment, donc on a fait 3 sessions de nage, ou deux grandes, donc rive sud, rive nord, dans le golfe de Saint-Tropez. Et le golfe de Saint-Tropez, il est évident que dessous, c'est pas terrible, quoi. Les herbiers sont impactés, c'est clafis d'épaves, de poubelles, etc., etc. Aussi parce que ça forme une grande lagune, que les lagunes, ça reçoit aussi les poubelles qui viennent d'ailleurs. Hein. C'est pas nécessairement les poubelles qui viennent du côtier, quoi. Mais ce qui était assez sympa, c'est que Nelly me sort, donc elle me dit « Prépare ta caméra, je vais sortir quelque chose ». À chaque fois, je me dis, bon, tu sors où ? Parce que, bon, ben voilà, on est obligé. Mmh. Hop, elle sort, hop, et puis elle me sort une balle de golf.
J'ai jamais vu autant de balles de golf de ma vie.
Sauf que sur la balle de golf, Oui, mais le truc qui est rigolo, on va faire la séquence, on va la faire, c'est que sur la balle de golf, c'est marqué golf sans E de Saint-Tropez. Ouais. Le golf.
D'accord.
Voilà. Golf, mais on est dans le golf avec un E de Saint-Tropez. Et c'est complètement délirant parce qu'on se pose la question, mais d'où viennent ces balles ? Il y a plein de balles de golf dans l'eau.
Sachant qu'elles ne flottent pas, les balles de golf, ça coule. Hein. Oui,
c'est du très bon plastique, très cher, de très haute qualité, il va durer celui-là. Il n'y a pas photo.
Et comment ça se fait alors ?
Je pense que ce sont les yachts.
Les gens qui jouent sur leur bateau, je pense. Voilà. C'est une interprétation.
Parce qu'il y a des yachts qui font plus de 50 mètres, 60 mètres. Il faut savoir que c'est considérable. Enfin, on n'imagine pas vraiment la valeur de l'engin. Quoi. C'est un autre monde. Hein. Nous, on a tiré cette conclusion, puisque bon, il y a bien des golfs côtiers et compagnie, mais bon, pour arriver là, c'est pas facile. Bon, il y a bien des petits cours d'eau côtiers aussi qui pourraient éventuellement trimballer les balles. Bon, mais non, moi je pense que ça vient de là, et ça, c'est complètement délirant comme truc. Voilà. Et puis, autre point, là, on a nagé ce grand week-end férié là, et quand on est rentré, c'est moi qui ai dit à Nelly, bon, on fait demi-tour parce que là, ça commence à devenir dur. Parce qu'il faut savoir que depuis le mois de janvier, on a eu la chance de côtoyer un littoral tranquille. Et là, ça monte la pression. Et on arrive dans une petite crique d'un endroit très sympa du côté des Issambres, par là-bas, donc avant Saint-Raphaël. Et là, il y avait des pêcheurs sous-marins. Je jugeais personne. Moi, je ne chasse pas du tout. Bon, on va dire que chaque usage a ses droits. Mais le seul truc, c'est que... Ils n'arrêtaient pas de gueuler comme c'est pas permis. Ils étaient en combinaison, camouflage, c'était assez rigolo, mais on voyait que. Et puis il y avait les fusils, les flèches. Alors, j'ai des analyses, donc je tape. Moi, pour l'arrêter, je tape sur les fesses avec ma pagaie. Je lui fais des signes. Et puis, c'est le seul endroit où je peux pas lui faire mal, quoi. Et je lui fais des signes, donc pêcheur. Moi, je les avais déjà vus, quoi. On fait demi-tour. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'effectivement, donc, c'était emmêlé les flèches. En surface, il y avait des mecs qui pêchait à pied, avec de la musique à fond. Donc, moi, ça me résonnait dans les oreilles.
Ça s'entend sous l'eau aussi.
Et ça s'entend sous l'eau, hein, parce qu'il faut bien parler aussi de pollution sonore.
C'est rare, quand même, des pêcheurs qui mettent de la musique.
Non,
pas du tout.
Ah oui. Non, il semblait que les lois de la pêche, c'était justement le calme.
C'était il y a longtemps, ça.
Non, mais ça, c'est comme la pêche et la chasse à papy, hein. C'est fini. Fini, hein. Non. Moi, c'est celle que j'ai vécue avec mon père étant gamin, quoi, mais ça n'existe plus.
Après, il y a des pêcheurs qui mettent pas de musique aussi.
Non, il y a
mais on en entend quand même.
Et puis, il y avait également donc, tous les yachts qui commençaient à arriver.
Chacun aussi avec sa ligne.
De petite taille, avec sa ligne et sa musique. Et à terre, il y avait les restaurants qui commençaient eux aussi à mettre leur basse. Et on était dans un micro-environnement, c'était une petite plagette, quoi. Enfin, un petit truc, quoi. C'était complètement délirant. Et là, il y avait un concentré de toutes les nuisances qu'on peut avoir. Donc et là, ça devient grave. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a de l'incivisme, beaucoup d'incivilité. Les différents usagers ne se respectent pas entre eux. Bon, il y avait les jet skis aussi, trois jet skis qui arrivaient comme des malades. Il y a le bruit, pollution sonore qui est considérable. Et la faune sous-marine en souffre énormément, quoi. Il y a les hydrocarbures, puisqu'en fait, tous les bateaux viennent mouiller au même endroit. Sur ces bateaux, certains bateaux sont très respectueux, c'est-à-dire qu'ils vont donc échouer l'ancre dans un endroit où il n'y a pas de Posidonie, ce qui est une très bonne chose, mais d'autres s'en moquent royalement et puis balancent l'ancre dans l'imbi de Posidonie.
Avec leur sac de poubelle. Hein.
Avec les poubelles qui vont avec, voilà. Et il faut savoir que quand ils relèvent l'ancre, ça fait un gros sillage dans la Posidonie et que la Posidonie, elle avance d'un centimètre tous les 10 ans. Voilà, donc,
Tous les ans.
Donc,
c'est très lent.
Là, on avait un gros concentré. Quoi.
Après, l'endroit était particulièrement touchant, vu sous l'eau, tout simplement, parce qu'on était sur un lieu qui était quand même joli. Au niveau des types d'habitats, il faut savoir qu'au plus les habitats sont diversifiés, au plus ça donne une chance à la biodiversité d'être riche. Donc, quand je me suis mise à l'eau, je me suis dit, génial, c'est une zone où il y a un peu des herbiers, il y a un peu du sable, il y a des rochers, il y a des grottes sous-marines, il y a des zones à l'ombre, il y a des zones au soleil par rapport aux criques. C'est super, je vais voir de tout. Effectivement, j'ai vu de tout, mais en quantité extrêmement petite. Les poissons étaient terrorisés. Et sur le coup, je n'ai pas compris. C'est quand le monde a commencé à arriver, la journée avançant, que je me suis aperçue en fait, que c'était lié vraiment à la fréquentation, à la manière de fréquenter. C'est-à-dire qu'on peut être nombreux sur un lieu si on fait attention. Ça peut tenir en équilibre, mais là, ce n'était pas le cas. Et à la pêche, il faut dire la vérité. Ça fait partie quand même des premières nuisances, menaces qui planent sur la Méditerranée, c'est la surpêche. Et on ne peut pas l'occulter. La pêche du petit pêcheur qui est là, sur son caillou comme avant, a un impact énorme maintenant, parce qu'il n'y a pas suffisamment, on va dire, de réservoirs de biodiversité pour renouveler les choses proprement. Donc il y a un impact. Et là, vraiment, là, j'ai été touchée. J'ai vu la différence, c'était flagrant. Une zone qui avait toutes les qualités pour être riche ne l'était plus du tout. Ça, c'était très clair. Contraste total avec des zones qu'on a parcourues où, franchement, on marche sur les sols, c'est magnifique.
3 kilomètres, même pas 2-3 kilomètres de cette crique, il y en avait une autre, elle, qui n'était pas du tout aménagée. Pas de restaurant, rien du tout, avec effectivement des vacanciers qui recherchaient la tranquillité. Et en fait, il n'y avait pas de musique. Les gens, les gamins faisaient des cabanes, des châteaux de sable, des trucs comme ça. Tout était extrêmement serein. Alors ça, moi, ce que je vois, c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui recherchent ça. C'est évident. Donc, de quel côté ça va aller ? Voilà. C'est vrai que là, ça commence à être populeux. Et autant les conditions de nage, de navigation jusqu'à maintenant étaient un petit peu difficiles à cause du froid, du vent tournant en permanence, autant on arrive sur une saison qui est beaucoup plus tranquille, mais par contre avec beaucoup d'usagers. Et donc ça devient beaucoup, beaucoup plus dangereux pour Nelly. Et ça m'oblige, moi, à être très, très vigilant parce que les bateaux partent dans tous les sens. Certains se moquent totalement des autres usagers, ça c'est clair. Bon, certaines personnes sont très respectueuses aussi, attention. Et ça devient vraiment, on commence à rentrer dans la zone rouge. D'ailleurs, le projet...
Et vous ne pouvez pas décaler...
Tu m'enlèves de la bouche. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que
vos missions pour éviter ces dangers.
On veut les montrer aussi.
On veut le montrer, cet aspect-là, c'est évident. Mais comme on a pris de l'avance, du coup, on va essayer de terminer la troisième saison, qui normalement on devrait être à la deuxième, on a déjà bien avancé, avant la fin juin. Et on reprendra donc à la fin de l'été. Mmh. Voilà, et à l'automne. Pour éviter aussi toutes ces complications, parce qu'on ne va pas non plus y arriver, ce qui va nous permettre de faire un petit break. Sachant que là, on en est à peu près à 281 km de nage. Et en kayak, ça fait nettement plus, parce que bon, moi, je fais le chien de berger, hein, donc je vais.
Il fait beaucoup d'aller-retour.
Voilà. Du coup, je pense que je ne sais pas si on arrivera à 450, mais je pense que les 400 seront dépassés. Ça, c'est sûr qu'on sera autour de 420-430. Si on continue avec cette cadence-là. Sachant qu'il y a des jours avec très peu de nage, des jours à 6 km de nage, et il y a des jours à 14. Quoi. Voilà.
Donc, est-ce que vous êtes vraiment visible pour...
Oui, on est très coloré.
Ouais, tout dépend des conditions de mer. Hein.
Et toi dans l'eau, Nelly
D'abord, ma combinaison est orange et noir. Je tracte une bouée sur laquelle il y a du matériel pour filmer, quelques vivres, un peu d'eau. Elle est jaune vif, d'accord, avec un fanion. Bruno, il est très coloré aussi, avec un kayak qui est orange et jaune. C'est visible, en fait. Par contre, dès qu'il commence à y avoir un petit peu de houle, d'abord, Bruno peut me perdre de vue très rapidement. Hein. Une fois que je suis dans le creux, je suis dans le creux. Hein. Et les autres usagers aussi. Donc, il y a des périodes, en fait, il y a des moments où on ne nage pas, tout simplement parce que la houle est trop mauvaise en termes de visibilité. Ça pourrait être nageable, mais c'est dangereux de ce côté-là. Après, Bruno disait tout à l'heure, c'est un projet vraiment contrasté. C'est une réalité, c'est contrasté dans tous les domaines. Hein. Je pense que c'est une bonne chose qu'on décale un petit peu au niveau de la saison aussi. Parce que là, par exemple, le contraste que moi je vis actuellement, qui est complètement fou, c'est que ça y est, ça commence à devenir confortable. Ok, c'est physique, mais je ne me refroidis plus.
Ah oui.
L'eau commence à se réchauffer. Donc j'arrive à ressortir de l'eau en pouvant utiliser mes mains. Waouh, c'est pas mal, quoi. Je suis assez contente. Sauf que c'est là que ça commence à devenir compliqué en termes de danger humain. Et pour Bruno, je pense que c'est un facteur, on pourrait dire, de stress. Je ne parle pas d'un mauvais stress, hein, c'est un stress réel. Tout simplement parce qu'il a une responsabilité énorme. Moi, sous l'eau, je suis sourde et on pourrait dire même aveugle. C'est-à-dire que Bruno me donne un cap, il me dit « voilà, tu vises ça, moi je vais là-bas ». Je ne m'occupe quasiment pas de ce qui se passe autour. Lui, il va gérer toute la sécurité, donc les autres usagers, si jamais je dévide mon cap, tout. Donc il y a une confiance totale, hein, c'est vraiment un travail en binôme. Et ça peut être compliqué des fois quand la mer est mauvaise. On n'a pas les mêmes problèmes en fait dans l'eau et sur l'eau, ça n'a rien à voir. Moi par exemple, s'il y a un mistral, un vent type mistral, tant qu'il n'est pas trop fort évidemment, hein, je peux être relativement à l'aise dans l'eau. Pas de problème. Pour Bruno, lui, ça peut être compliqué, tout simplement parce qu'il peut se prendre la pagaie dans les dents assez rapidement quand il y a des rafales. S'il s'arrête de pagayer, il va d'un coup prendre plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres en quelques secondes. Donc il est obligé d'être toujours en mouvement.
De dérive, en fait. Hein,
ah, oui. C'est vraiment de la dérive. Ouais. Moi, j'ai pas de problème de la dérive, j'en ai d'autres. Hein. Ouais. Mais finalement, on ne rencontre pas les mêmes problèmes en kayak et à la nage. Des fois, ça contraste aussi les choses. Ça peut les compliquer.
Il y a énormément de vent, et là on en parle beaucoup avec les usagers. Genre, tout à l'heure je parlais avec des skippers, des professionnels, mais également avec des vacanciers, des retraités, qui ont leurs habitudes, qui vont nager tous les matins et compagnie, et qui arrivent là à se stabiliser. Quoi. Donc oui, mais je croyais que, et en fait, c'est vrai que selon le type de vent, pour les kayakistes ou les gens en paddle et compagnie, il peut très bien ne pas y avoir de vagues, sinon des tout petits clapots, mais s'il y a des rafales de Mistral, c'est, elle disait, quelques mètres. Moi, ça m'est arrivé, c'était pour une émission de télé. Je crois que je me suis pris 300 mètres en le temps de compter jusqu'à 10, quoi. Mm-hmm. Un truc comme ça. Et après, il faut tout remonter. Et ça devient extrêmement pénible après pour filmer. Parce qu'en fait, je suis complètement obligé de me stabiliser en force, d'anticiper, d'allumer une caméra, etc., etc. Et donc, le temps d'agir, hop, c'est bon. Et Nelly, c'est un petit point jaune là-bas. Donc, il faut revenir. Enfin, ça devient très, très compliqué, quoi. Voilà. Mais bon, c'est la mer. Et justement, ça fait partie de cette aventure sportive, hein, parce que c'est vrai que bon, Nelly parlait de la houle, mais il y a aussi la formation de vagues. Il y a des vagues qui sont très courtes, très cassantes en Méditerranée, c'est connu des marins. C'est pas facile de naviguer dans ces chapelets de vagues qui sont resserrées comme c'est pas permis, donc à chaque fois elles déferlent sur le bateau. Donc c'est physique, quoi. C'est physique, même si, comme je l'avais dit une fois, nager, pagayer 10 à 12 km par jour pour un kayakiste de mer, c'est vraiment, vraiment pas un exploit. Pas du tout, du tout. Mais dans ce contexte-là, ça peut être pénible. Ouais.
Ouais, ça devient assez vite complexe parce qu'on ne fait pas que nager et pagayer. Il ne faut pas oublier qu'on fait un film. C'est-à-dire qu'il y a des images à faire. Bruno fait les images nautiques, moi les images subaquatiques. À côté, on a d'autres tournages. Hein. Mais ceux-là, on va dire, c'est les principaux postes quand on est en mission de nage. Et les images subaquatiques, bon, je vais descendre en apnée avec une ceinture de plomb. Donc
combien de temps en apnée alors à chaque...
Aucune idée, c'est le genre de choses que je ne me suis jamais posé la question, mais je ne suis pas une bonne apnéiste.
Non, c'est pas vrai ça. Non,
je connais bien les animaux.
C'est une très bonne apnéiste. Par rapport à la moyenne des gens.
Bon, j'ai jamais pratiqué l'apnée en club, par exemple. Oui, par contre, c'est vrai que je connais bien les bêtes, les animaux, leurs habitudes, la manière de les approcher. Un poisson, par exemple, ne s'approchera pas de la même manière qu'un poulpe ou ce genre de choses. Je sais m'y prendre, on va dire, pour descendre, poser ma caméra au fond ou moi-même rester un peu au fond, le temps de faire ce dont j'ai besoin. Sauf qu'on peut se dire, par exemple, quand on regarde la mer, « Waouh, la mer est belle aujourd'hui, génial !» Oui, effectivement, en surface, Bruno pourra avoir une excellente visibilité. Moi, sous l'eau, il y a des périodes où je ne vois même pas mes mains. Tout simplement parce que ça a été trop remué, par exemple, par un vent du sud pendant quelques jours. Et il y a tellement de particules en suspension dans l'eau, pour peu qu'on soit sur un secteur vaseux, sableux, que je ne vois pas mes mains. Ce n'est pas une image, hein, je ne vois pas mes mains. Donc, dans ces conditions-là, faire des images vidéo, évidemment, ce n'est même pas pensable. Donc, ça devient très, très vite complexe d'assurer un tournage dans un milieu qui ne s'y prête pas. De même que Bruno, sur un kayak, quand il y a du vent et de la houle, faire des images, ça devient très vite du rodéo, quoi. Et c'est intéressant, c'est un vrai challenge.
Et faire de la nage avec des bouteilles
Alors, nager en longue distance avec des bouteilles, il faut complètement oublier.
Ah ouais.
Ah ouais, ouais. Mais les bouteilles, c'est très lourd et c'est absolument pas fait pour faire un effort. Hein. Quand on plonge en bouteille, notre corps va accumuler un surplus d'azote dû à la profondeur. Donc, c'est pas fait pour nager en surface, de toute façon, les bouteilles. Donc, à supposer que je décide de nager en profondeur, il faut qu'il y ait vraiment du repos derrière pour que l'azote soit évacué par le corps. Donc, en fait, il ne faut pas du tout imaginer que la D'accord. bouteille servira à une forme de challenge. Par contre, c'est génial de pouvoir descendre en bouteille pour faire des images. Il y a des missions qui sont prévues pour quand le challenge sera terminé, de manière à faire des images complémentaires pour le film. Parce qu'il y a des secteurs qui méritent de pouvoir descendre plus de quelques minutes, de se poser et de filmer tranquillement, notamment, allez, je vais citer un secteur qui est quand même très connu, c'est le secteur des goudes. Tout simplement parce qu'au goudes, il y a beaucoup de déchets, énormément de poubelles, et ces poubelles qui viennent d'un peu partout, pas que des goudes, heureusement, s'accumulent au fond, et malgré les efforts, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour les enlever, elles reviennent. À chaque coup de vent, on peut être sûr qu'elles reviennent. Et ça mérite d'être filmé, mais posément, pas de descendre en apnée.
Quel travail!
C'est du travail, oui.
Quel travail. Bon, ça, alors, vous avez un blog où on peut suivre votre aventure ou...
Alors, on utilise... alors, je vais dissocier. Il va y avoir les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment Facebook. Ceux qui veulent nous suivre, il suffit qu'ils tapent Facebook « Les marcheurs de la Terre » et ils vont tomber sur notre page. Que j'administre, on va dire, assez modérément, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de publications. On ne va pas inonder les gens avec des posts. On met du contenu, on pose, on se pose. On met vraiment du contenu, c'est-à-dire qu'on va, dans ce cas-là, ne pas simplement mettre une photo pour dire coucou. On va mettre du texte, on va mettre des vidéos qui demandent plusieurs jours de travail derrière, de manière à ce que les gens qui ont envie de suivre puissent récupérer vraiment de l'information sur ce qu'on fait. Sur Facebook, également sur le site d'Octopus Production. Octopus Production, lui, ça s'écrit O-C-T-O, P-U-C-E, c'est un jeu de mots.
Voilà.
C'est P-U-C-E à la fin. Ouais. Et là, il va y avoir la page du suivi de la nage de Posidonia, dans laquelle on va retrouver sensiblement les mêmes publications qu'on met sur Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a des bulletins pédagogiques qui sont postés à chaque mission qui est terminée. Donc, dans ce cas-là, on va mettre une vidéo en ligne, plus un bulletin pédagogique qui est un PDF qui fait 3, 4, voire 5 pages, où il va y avoir en fait ce qu'on a vu, nos états d'âme, des, on va dire, des focus sur la posidonie, ça peut être sur plein de choses. Et chaque mission a son bulletin pédagogique. Le bulletin pédagogique, parfois je les mets sur Facebook, parfois non. Donc ceux qui veulent les récupérer, ils vont sur le site Octopus. Et ce projet, on va dire, pédagogique, parce que c'est un vrai projet pédagogique, il est en ligne gratuitement pour tout le monde. Il est suivi par des établissements scolaires. Et par la suite, une fois que le film sera terminé, on pourra toujours de toute façon continuer à utiliser tous ces bulletins aussi pour travailler auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'on a tout cet historique qui est là. Finalement, le travail de Posidonia, actuellement, il se fait par les rencontres qu'on fait au quotidien, par les personnes qui peuvent nous suivre et nous poser des questions. Mais le vrai travail, on va dire, de transmission, il se fera une fois que le film sera monté, quoi.
Ça vous fait des journées de combien d'heures, ça ?
36.
Vous avez le temps de dormir un peu.
Oui, ça, c'est un ordre de vie.
C'est important de récupérer, quand même.
Bah, quand l'aventure est un métier, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit que quelqu'un qui la vit partiellement, ponctuellement, sur une année. Quoi.
Ouais, et puis, on l'a choisi, notre métier,
donc,
on ne le subit pas.
On apprend à se ménager. Et ça, c'est valable pour n'importe quel professionnel. J'en reviens encore aux guides, aux accompagnateurs, aux kayakistes, aux voileux, etc. etc. Le quotidien, c'est de l'action, c'est physique. Donc le quotidien, c'est aussi respirer, bien vivre, bien manger, bien dormir, etc. etc. Donc c'est la grande différence entre un pro, entre guillemets, et quelqu'un qui doit concentrer tout dans un espace-temps très très limité et qui est obligé d'être au taquet, malheureusement. Enfin, obligé, non, il n'est pas obligé, mais qui souvent s'y met, on va dire. Et c'est dommage, parce que quand on va trop vite, on ne profite pas et on ne voit pas les choses, quoi.
Et puis si on ne respecte pas des temps de repos, de toute façon, avec tout ce qu'on fait, on ne pourrait pas tenir.
Parce que là, on travaille sur un projet islandais aussi, donc, qui était déjà entamé l'année dernière. Donc là, on y retourne dans peu de temps. Donc on va de la Méditerranée, on passe à l'océan Arctique, parce qu'on travaille sur la côte nord face au Groenland. Et après, on se remet en Méditerranée. Donc là, l'effort, ce sera tout sur le dos, puisqu'il y a 3 semaines d'autonomie avec des sacs de 30 kilos, rien que pour récupérer un petit teaser pour pouvoir monter un dossier documentaire. Un gros truc, dans une zone quasi vierge, quoi. Pas de téléphone, pas de radio, rien du tout. Hein, pas. Donc on se plante, on est planté, puis point la ligne, on n'en parle plus. Et puis voilà, donc tout ça, ça avance frontalement. Et puis il faut récupérer. Hein. Bon, parce que mine de rien. Les marcheurs de la Terre ont commencé en 95, on se connaissait bien déjà, Odile.
Oui.
on a pris un petit coup quand même, quoi. Donc, la mécanique, elle
coup de maturité.
Elle force un petit peu plus, quoi, quand même, voilà.
Ouais.
Et même Nelly le ressent, hein, pourtant
qu'elle est
nettement plus jeune. Hein.
Après, l'avantage, donc, c'est que ce que je pratique, c'est une nage d'endurance. Donc l'endurance, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment longtemps. Hein. Moi, j'arrive à la quarantaine. Pour l'instant, l'endurance pose aucun problème. Si j'étais sur quelque chose de vraiment performatif, ce serait, je pense, déjà différent.
Non, mais l'endurance, tu peux pousser jusqu'à perpète. Hein.
Ouais. C'est le but.
Il n'y a pas de souci. Hein.
J'imagine que chaque jour, vous avez votre lot de surprises, agréables ou désagréables. Il y a toujours des imprévus.
Moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de surprises agréables.
Oui.
Enfin, pour ma part, je suis content de voir des gens... sensibles à leur environnement, voilà. Alors après, on s'attire mutuellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est comme dans tous les domaines.
On se reconnaît,
et puis automatiquement, ça sympathise. Et ça sympathise étonnamment, mais je crois que j'en avais parlé la dernière fois, avec les gens qui promènent leurs chiens.
Ah oui.
Donc nous, on adore les chiens, et les chiens le savent. Donc en fait, on se récupère tous les chiens, et puis du coup, les gens avec.
Et les chiens sur les plages, du coup,
le chien rapproche les hommes, c'est bien connu, de toute façon. Et ça, c'est très très sympa. Après, on était très, très, très avertis de ce qu'on allait voir sous l'eau, parce qu'en fait, le dossier documentaire est écrit avant, le scénario est écrit avant. Donc là, il n'y a ni de bonne ni de mauvaise surprise. On n'est pas... Ça va, on le savait. Non, la surprise, s'il y en a une, c'est les perturbations météo.
Ouais.
C'est-à-dire que le vent, il fait un 360 dans la journée. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est très, très problématique. Ouais.
C'est problématique pour les étapes telles qu'elles ont été conçues, parce qu'il faut les modifier parfois en temps réel. Et moi, j'essaie autant que possible de revenir quand je pars à la nage, j'essaie de revenir avec le vent dans le dos, sachant qu'on fait des boucles. On ne va pas d'un point A à un point B, on fait une boucle, on revient de là où on est parti. Ce n'est pas évident de se dire je vais revenir avec le vent dans le dos, sachant que le vent n'est pas prévisible. Ce n'est pas si simple. Donc des fois, je reviens avec le vent de face ou de travers.
Non, puis on a fait des super rencontres. Tout à l'heure, Nelly parlait des planctons, on a parlé des vélènes, évidemment, et des méduses, mais on a également vu des organismes complètement délirants, des écharpes, des spirales de plancton
Toi dans le micro.
Ah oui, pardon, oui. Pourtant je le sais bien. Voilà. Et on a vu tous ces animaux qui ressemblent un petit peu à des animaux abyssaux, quoi. Et ça aussi, c'est des jolies rencontres, parce que ce sont des animaux coloniaux, comme disait Nelly, c'est-à-dire que ce n'est pas une bestiole, ce sont des centaines, des milliers qui s'assemblent, en fait, et qui forment un animal complètement féerique, qui n'existe pas, en fait, mais comme des gros serpents de mer avec une tête et une gueule qui s'ouvrent, qui viennent me voir.
Ça, c'est la Proxalie.
Par-dessus, ça c'est la Proxalie, ouais, c'est ça. C'est complètement délirant, ce truc.
On se croirait dans des films de science-fiction, sauf que c'est juste chez nous.
Et ça, c'était il y avait 1,50 m de flotte, quoi. Voilà. Ah, par contre, avis aux baigneurs, bon, là où on était, il ne pouvait pas y en avoir. Mais bon, là, il ne faut pas s'y frotter. C'est beau, mais c'est urticant. Mmh. Voilà.
Après, il y a une règle d'or, de toute façon, dans l'eau. Hein. Pour qui que ce soit, ouais. Hein, on ne touche pas. Mmh. On ne touche pas. C'est très beau, mais on ne touche pas.
Donc oui, ça nourrit et ça peut encore satisfaire la curiosité. Ça, c'est intéressant, quoi. Voilà.
Alors, donc, les prochaines étapes, là, dans votre planning, qu'est-ce que c'est ?
Ben, les prochaines, bon, déjà, ça va démarrer la semaine prochaine. Hein. Si la météo s'y prête, il va y avoir un gros focus à Saint-Égulf, c'est-à-dire c'est l'estuaire de l'Argence. L'Argence, c'est un petit fleuve côtier qui descend du Var et donc qui va se jeter par là-bas. Et c'est très intéressant parce que là, on fait un focus sur la pollution, je dirais, fluviale. Quand on parle de fleuve, très souvent on voit les grands fleuves, mais en fait on a les petits fleuves côtiers aussi. Donc le principe du fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette directement dans la mer, quoi. Et là, l'Argence est très intéressant parce que c'est un fleuve qui réunit à lui seul, on va dire, toute la problématique des fleuves. Donc on a un intervenant dessus qu'on connaît, qui travaille avec nous depuis maintenant 2017, qui va faire un gros topo sur la pollution des fleuves et sur l'Argence. Donc on va bien traîner. Là, on va être sur une nage qui va être plus exploratoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va bien étudier ce qui se passe donc, dans l'estuaire, à 100 mètres, 200, 300, 400, voire un petit peu plus loin, quel est l'état donc, des écosystèmes. Après, donc, on va avancer sur l'Estérel, donc, c'est-à-dire toujours en avançant vers l'est. Et on avance, on va dépasser Saint-Raphaël, Boulouris, on va aller jusqu'au Cap Dramon. Donc le Cap Dramon, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est l'Estérel qui est planté dans la mer. Donc c'est une roche orangée, c'est du porphyre. Et là, c'est très, très, très joli d'un point de vue visuel, quoi. Et théoriquement, si on arrive à faire tout ça la semaine qui vient, voire celle d'après, on clôture la saison d'été au printemps. En gros, voilà. Et à ce moment-là, on reprendra au mois d'août.
Et pourtant, voilà. Ce dont on parle, c'est quand même, ouais. On parle beaucoup de la partie visible, la partie nage, la partie challenge. Ouais. Moi, je le répète, hein, c'est quand même la partie la plus sympa. Hein. Ouais. Derrière, il y a beaucoup de travail de bureau, pas toujours gratifiant. C'est pas évident de mener un projet comme celui-ci.
Et vous pouvez pas vous faire aider, assister d'autres personnes dans ces projets.
On l'est partiellement, mais là, ça atteint ses limites, quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Si par exemple quelqu'un s'engage sur un projet au départ et qu'on lui dit de tenir la barre pendant 5 ans, ça ne marche plus aujourd'hui. Au premier temps des Marcheurs de la Terre, les gens arrivaient à s'engager sur une expédition, y compris dans la phase préparatoire, c'est-à-dire 2, 3, 4 ans avant. Donc, ils s'y tenaient. Voilà. Bon, y avait des désistements, il y avait des mariages, il y avait des divorces, il y avait des gamins qui arrivaient entre-temps, c'était pas prévu. Hop, ok, chacun reprend son cap. Mais les gens s'y tenaient. Au jour d'aujourd'hui, on a un décalage entre le rêve et la capacité de réaliser son rêve. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont peut-être rêver plus qu'avant parce qu'ils ont vraiment besoin de s'évader et ils vont tout de suite s'enthousiasmer pour partir sur un projet sportif, artistique ou autre. C'est super. Bon, tu me parlais de ton album tout à l'heure. Bon, ben voilà, je te suis Odile, je suis musicien, patati patata. J'ai compris, il faut 3 ans pour le faire. Et bien, 3 mois, il n'est plus là. Voilà. Mmh. Bon. Et c'est pour ça que souvent on se retrouve seul à la fin. Donc au jour d'aujourd'hui, moi là-dessus, j'y compte plus du tout. C'est-à-dire que quand on passe à l'acte, on réalise le truc, la personne, au bout de 2-3 mois, elle n'est plus là de toute façon. Parce qu'il y a des réunions, il y a des ci, il y a des ça. Voilà. Donc quels sont ceux qui restent ? Soit des gens très très proches qui nous offrent une compétence qu'ils ont, c'est un coup de chance, quoi. Mmh. Soit, je dirais, des gens qui sont rémunérés, ça peut être des voix off, ça peut être des musiciens, ça peut être des techniciens, etc., mais ponctuellement. Donc voilà, et ça, ben oui, on est accompagné, mais les caisses sont quand même très très limitées, le projet coûte cher et on ne peut pas toujours faire appel à des prestataires extérieurs. Voilà.
C'est pour ça aussi donc, qu'on a tout, on essaie de cumuler un maximum de compétences, hein. on fait tout maison. Hein.
On en aura besoin après. Alors après, il y a aussi une chose, c'est qu'on va rencontrer, on parlait des bonnes surprises. Tout à l'heure, je parlais des SOS Grand Bleu, je parlais de Carcaran Environnement, je parlais de Rando Marine et tout. Ce sont des gens qui ont accroché le projet en cours de route et qui nous aident. Réellement.
Chacun
et
leur
qui
manière,
s'investissent.
Avec leurs moyens.
Et ça, c'est génial. C'est d'autant plus génial que ce n'était pas prévu. Donc, en fait, on est aidés. mais voilà, pas comme on le voudrait au départ, quoi.
Bruno Lambert et Nelly Kars, l'émission touche à sa fin, mais merci en tout cas d'être venu donner de vos nouvelles de ce projet Posidonia, c'est comme ça qu'on prononce.
Posidonia.
Voilà.
Bon, c'est pas bien grave. On va faire une chanson là-dessus, Posidonie.
Ouais, et ben écris les paroles et puis on la chante.
C'est entendu.
Ouais.
Enfin, on la chante, tu la chantes.
Ouais. Donc merci et puis donc on peut suivre sur la page Facebook Octopus Productions, c'est ça?
Non, Facebook non. C'est Les Marcheurs de la Terre.
Les Marcheurs de la Terre.
Et le site c'est Octopus Productions avec l'octopus il s'écrit PUCE.
Voilà, comme la puce.
Merci Odile.
Voilà,
ben,
il y a d'autres...
Rien du tout, sinon merci Odile une fois de plus.
Ben, merci à vous de nous faire rêver par vos belles aventures. Hein. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Thank you.